franceinter.fr.
Bonjour à tous. Dans un mois, le mardi 8 novembre, aura lieu l'élection présidentielle américaine. Les sondages prévoient toujours un scrutin serré entre le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton. Aujourd'hui, plongé au cœur de la Floride, un de ces États baptisés « swing states » parce que, compte tenu du système électoral, le verdict des urnes peut y faire basculer le résultat de tout le pays. Comme en 2000, année où George Bush l'emporta après l'épisode du « too close to call », trop proche pour proclamer les résultats, et après plusieurs jours de recomptage des bulletins, son adversaire Al Gore ayant dans un premier temps été déclaré vainqueur. Un État aussi où, le 12 juin, Omar Mateen, qui se réclamait du groupe État islamique, a assassiné 49 personnes au Pulse, une discothèque fréquentée par la communauté homosexuelle d'Orlando. Un État enfin où la pauvreté fait des ravages dans toutes les communautés. Peur des étrangers, peur du déclassement économique, peur du déclin du pays, montée d'un candidat populiste et méfiance à l'encontre de la candidate qui incarne les élites de la capitale, les thèmes de cette élection entrent souvent en résonance avec ceux de notre présidentielle qui, elle, aura lieu au printemps. USA, la peur au fond des urnes, un reportage de Claude Guibal et Nicolas Mathias.
Interception, le magazine de la rédaction.
Une avenue bordée de bureaux et de fast-food, un bout de trottoir couvert de cire fondue, des pétales fanés et un panneau sur fond noir, le Pulse. Le 12 juin 2016, 49 personnes sont mortes ici, dans ce club gay, sous les balles d'Omar Mateen, un tueur se revendiquant de l'organisation de l'État islamique.
Together, many candles give us the warmth of a community that will be stronger than it has ever been before, because you can extinguish a life, but you will never extinguish love.
Stanley Almodovar III, he was a pharmacy technician. He was just 23. Luis Omar Ocasio-Cabo, he was a dancer and a barista. He was just 20 years old.
They're also picking up flowers. They're going to be turned into compost. Now, the chain link fence out here, it's going to be gone Monday. In its place is going to be a commemorative art fence made up of art.
Je m'appelle Michael Perkins, je suis le directeur du musée régional d'histoire du comté d'Orange, qui est situé au centre-ville d'Orlando, où nous nous trouvons. Nous sommes devant le Pulse, là où s'est déroulée la tuerie, le 12 juin de cette année. Si on est là, c'est parce que le musée rassemble les souvenirs que les gens viennent déposer. Il y a de tout, des fleurs, des photos des victimes, des drapeaux du monde entier. Il y a un drapeau canadien avec les rayures arc-en-ciel et la feuille d'érable au milieu. Le drapeau arc-en-ciel plus classique de la communauté LGBT. Des étoiles, des bougies partout, des ballons, des croix bricolées à la main. Beaucoup de petits mots, des colliers, des stickers, des badges. Un petit peu tout ce que nous avons vu ici.
Mon nom est Anthony Charmford. J'ai 22 ans, j'habite à Orlando, en Floride, et je viens d'obtenir mon diplôme universitaire en mai.
Je suppose que ce lieu est important pour vous.
C'est sûr que ce lieu compte beaucoup pour moi. C'est le premier club gay dans lequel je suis allé quand j'avais 18 ans, et je pense que beaucoup de gens de la communauté d'Orlando ressentent la même chose, que c'était un endroit où on se sentait en sécurité quand on était soi-même pas si à l'aise et sûr de soi.
Est-ce que ce qui s'est passé ce jour-là vous a enlevé ce sentiment de sécurité?
C'était clairement, vous savez, quand j'étais ici et que ce truc est arrivé, on apprenait tous les détails, ma sensation d'être en sécurité, comme celle de beaucoup de gens en ville et dans tout le pays, a été foutue en l'air. C'est une tragédie à laquelle je crois que personne de ma génération ou de la communauté LGBT n'a été confronté. Rien de cette ampleur, avec tant de haine, vous savez.
De quoi pensez-vous que les gens ont peur?
Plein de gens ont peur de plein de choses. Il y a plein de chrétiens blancs âgés qui ont peur de la radicalisation de l'islam ou qu'on limite les droits du deuxième amendement sur le port des armes. Il y a plein de jeunes afro-américains, garçons ou filles, qui ont peur de la brutalité policière, des discriminations à l'école, au travail, dans tous les aspects de leur vie. Il y a les transsexuels qui ont peur qu'on ne les laisse pas vivre leur vie comme ils l'entendent, parce qu'on surveille leur corps et qu'on conteste leur droit à exister. Il y a plein de gays qui ont peur qu'on ne les écoute plus parce qu'ils ont obtenu le droit de se marier après s'être battus pour ça pendant si longtemps. Il y a des tas de peurs. Il y a des tas de peurs et je ne crois pas qu'il y ait d'espoir parce qu'il n'y a pas de politique qui insuffle ce genre d'espoir. Il n'y a pas de discours qui promettent un changement politique. Il y a juste cette peur omniprésente. On ne parle pas de ce qu'il faudrait faire, mais de ce qu'on doit faire parce qu'on a peur.
Vous voulez bien vous présenter?
Je m'appelle Lee Shannon, je vis à Orlando. Je suis commerçant, je suis aussi artiste drag queen et acteur de stand-up. Et je suis homosexuel, si ça peut aider à me cataloguer ainsi. J'habite ici à Orlando et voilà, c'est à peu près tout. Je viens d'un milieu redneck, un milieu de plouc. Mon père était membre du Ku Klux Klan quand j'étais jeune. Je viens du Kentucky, je viens d'une famille qui dans les années 70-80 a été horrible avec moi.
As you experienced it yourself, being in a family with a dad in a,
Vous qui avez grandi dans une famille avec un père au Ku Klux Klan, est-ce que vous craignez que cette époque recommence?
C'est bien possible qu'on revienne en arrière. Je pensais que le temps des vieux messieurs aux cheveux blancs qui siègent au Congrès, au Sénat et à la Chambre, c'était fini. Je pensais que ce système toucherait à sa fin. Mais ce qu'on a oublié, c'est que ces gens-là avaient des enfants et on voit beaucoup de ces enfants briguer des postes au sein de ce parti extrémiste.
Quelles sont les peurs qui motivent ces votes ?
Il y a des extrémistes religieux partout, mais je dis toujours qu'on ne naît pas avec la haine. C'est quelque chose qu'on nous enseigne dès la naissance. On pourrait le dire comme ça. La haine est toujours présente, mais je crois que les grands médias américains sont devenus des médias d'opinion, des forums de réseaux sociaux. Avant, il y avait de grandes chaînes d'information. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, elles passent des heures à spéculer, à attiser la haine. Elles ne donnent pas d'informations, elles restent en boucle sur tout ce qui va faire du clic. Si je regarde les infos à 8h, à 9h, à 10h, à 11h, il y a zéro info. Par exemple, ce qui s'est passé il y a 2 ans à Flint, dans le Michigan, le scandale de l'eau contaminée. Ils ont mis 1 an à en parler. Ça, c'est le genre d'info dont on ne parle pas. Maintenant, on fait de l'info politique 24 heures sur 24. En fait, ce n'est même pas de l'info, ce sont des programmes politiques qui font du sensationnel. Le résultat de tout ça, c'est que ça empêche les gens de penser. Ça les rend dingues de voir des gens s'écharper à l'antenne. Faire de l'info pour faire des clics, aller sur les réseaux sociaux pour des tweets, des likes, des j'aime, ce n'est plus que ça maintenant. Oui, on prend aussi les chèques. On prend tout sauf l'American Express.
Dans son magasin, Lee vend des perruques. Il en vend pour des artistes, il en vend aussi pour des malades du cancer.
Allez, bonne chance. J'espère que tout ira bien et que vous vous en sortirez très vite. Prenez bien soin de vous. Vous pouvez sortir par derrière si vous êtes garé dans le fond. Allez, à bientôt. Mon compagnon et moi, on travaille tous les deux. On approche de la fin de la cinquantaine et on doit cumuler 2 emplois. J'ai ma propre affaire et vraiment, c'est dur. Le père de mon père, il travaillait dans une mine de charbon dans le Kentucky. Il avait des conditions de vie terribles. Il est mort d'une maladie pulmonaire à cause de son travail. Sa famille a déménagé à Louisville pour travailler dans une usine de cigarettes. Ils ont eu une belle vie, donc mon père a réussi à bien s'en sortir, à prendre sa retraite avec un $500,000 de dollars de côté et des actions. Cette génération n'existe plus. Réfléchissez à ça, pensez-y une minute. Nous sommes la première génération qui ne va pas faire aussi bien ou mieux que celle de ses parents. Mon père faisait partie, disons, de la classe moyenne. Moi, je faisais partie, je dirais, de la classe moyenne inférieure. Aujourd'hui, je suis un travailleur pauvre. Au bord de la route, aux franges de la ville, il y a ces maisons fatiguées, aux vitres parfois couvertes de contreplaqués. Il y a ces camps de caravanes et de mobilhomes dans lesquels vivent près de 20 millions d'Américains qui n'ont pas les moyens d'habiter ailleurs. Retraités sans pension, familles à revenu minimum, c'est l'Amérique des chômeurs, des ouvriers, de la working class qui survit comme elle peut, l'Amérique des bons d'alimentation, l'Amérique des déclassés, celle qui ne croit plus en rien, ni dans les grands médias, ni dans les politiciens de Washington. Assis en plein soleil sur les marches de leur mobile home, Gloria, 60 ans, et Sam, 58 ans, fument une cigarette.
Je m'appelle Sam, j'ai 51 ans, au chômage.
Depuis combien de temps vous êtes au chômage ?
Ça fera 2 ans en novembre. Quand on devient vieux, ici, ils veulent des gens plus jeunes. Mais les gosses, le seul truc qui les intéresse, c'est le salaire. Ils s'en foutent du travail. Ils veulent juste toucher un salaire pour faire la fête avec leurs amis et...
Alors que nous, les autres Américains, on veut travailler pour pouvoir gagner notre vie, nourrir nos familles. C'est ça qui est important. Il faut qu'ils mettent l'accent sur les emplois qui bénéficient aux familles. On galère, alors que ces gens qui viennent d'autres pays, on leur donne de la nourriture, on leur donne des voitures, un endroit pour vivre. Les Américains n'ont pas tous ces avantages.
Vous, par exemple, vous gagnez 10 dollars de l'heure. Vous êtes la seule à ramener de l'argent à la maison. Vous avez des aides ?
Non. La seule chose qu'on a, c'est qu'on peut avoir des coupons alimentaires pour la nourriture. Mais croyez-le ou pas, avec ce que je gagne, le gouvernement ne me donne que 16 dollars par mois pour survivre.
Vous faites comment ?
C'est dur, c'est très très dur. On rogne, on gratte, en gros, on n'achète pas cher. Et comme je le disais, on n'a aucune aide.
Juste 16 dollars par mois.
Hein. Et je n'ai pas non plus d'assurance médicale pour pouvoir aller chez le docteur, parce que je ne peux pas me permettre de payer celle que propose mon employeur.
Il n'y a pas d'assurance médicale abordable pour qui que ce soit.
Ça vous coûterait combien l'Obamacare si vous deviez la payer ?
Ça ferait au moins 400 dollars par mois pour tous les deux.
Je n'ai pas idée, ça coûte combien d'aller chez le médecin aux États-Unis ?
Ouais, bien, certains ne coûtent que 70 dollars, mais ça peut monter jusqu'à 1000. Ça dépend où on va.
Et pourquoi s'il faut faire un bilan sanguin ou bien si on est hospitalisé, là on parle de 6, peut-être 7 ou 8 000 dollars. Ces minorités qui viennent ici, vous savez, n'également ou pas, on leur donne tout sur un plateau d'argent, alors que les Américains sont ceux qui souffrent parce qu'on ne les aide pas. Et on est né et on a grandi ici en Amérique.
Vous m'avez dit que jusqu'à ce que vous aménagiez dans ce mobil-home hier, vous ne viviez pas seul, vous viviez avec vos parents et d'autres adultes ?
Oui, nous étions 14 en tout.
Tous ensemble ?
Oui, dans une même maison.
4 pièces. Est-ce que vous avez l'impression qu'une part de la société américaine est laissée de côté ?
Oui, tout à fait. Surtout ceux qui ont 50 ans et plus. Je veux dire, ils ne les aident pas. C'est ce que je vous disais. Ceux qui cherchent un travail, tout ça. Quand vous allez à des foires à l'emploi, ils en font parfois. Et vous voyez les jeunes, on les embauche. Et il y a plein de vieux là-bas aussi. Mais à chacune de ces foires, vous voyez toujours les mêmes vieux visages. Car personne ne va embaucher quelqu'un qui a plus de 50 ans. On dirait que c'est ça, la date limite. Si vous avez en dessous de 50 ans, vous êtes vernis. Moi, par exemple, comme je vous disais, ça fait plusieurs années que je travaille dans la grande distribution. Et quand j'ai été embauchée à Walmart, j'ai eu de la chance, car je vais avoir 60 ans en avril prochain.
Vous vous sentez privilégiée ?
D'une certaine façon, oui, car je suis toujours là. Vous savez, il y a des employeurs qui font tout pour se débarrasser des employés qui sont vieux.
Est-ce que vous pensez que le rêve américain, ça veut toujours dire quelque chose ?
Plus vraiment.
Non, plus vraiment. Quand on voit tout ce qui se passe, les meurtres, le terrorisme, tout le monde a peur. Ça peut se produire partout, n'importe quand. C'est un drôle de sentiment. Autrefois en Amérique, on n'avait pas peur de laisser les portes ouvertes, vous n'aviez pas peur d'être dehors le soir, de vous asseoir. Les gens pouvaient vivre ensemble, et c'est de ça dont le pays a besoin. Retrouver une unité, que les gens arrêtent de se faire du mal les uns les autres, vous savez.
Il faut qu'on répare l'économie. Il faut qu'on règle le problème des sans-logis. Recréons des emplois américains. Remettons les gens au travail.
Quel que soit leur âge.
Peut-être que l'économie va changer. Je veux dire, dans le monde entier, qu'il y ait du travail partout dans le monde. Peut-être qu'on peut changer l'économie et qu'on pourra un peu mieux cohabiter. Il faut éliminer la menace terroriste. Je ne dis pas qu'il faut tous les tuer, mais il faut les enfermer.
À l'entrée de la mosquée Masjid al-Rahman, le long de Golden Road Road, il y a une guérite et des barrières. Les jours de grande prière, il y a des gardes de sécurité. Des caméras de vidéosurveillance balaient les bâtiments survolés par les avions qui se posent sur les pistes de l'aéroport d'Orlando. Mosquée brûlée, musulmans attaqués, ici on ne parle que de ça. L'imam Mohamed Mosri est assis dans la salle de prière, sur son téléphone, les messages de haine laissés sur le répondeur de la mosquée.
Fuck you, you fucking Muslim cunts. We're fucking blow that fucking mask up, you fucking cunts. Fuck Mohammed and fuck all of you.
Il y a beaucoup d'angoisse chez les musulmans en ce moment. Ces derniers temps, il y a plusieurs attaques. À New York, cet homme qui a mis le feu à une femme qui passait et qui portait un hijab. Des mosquées incendiées, comme l'autre jour, à 2 heures de route d'ici. Et ce n'est pas normal. Avant le 11 septembre, la communauté musulmane était silencieuse, invisible. La majorité de ceux qui ont atterri aux États-Unis y avaient été invités à le faire en tant que médecins, ingénieurs, diplômés, pour combler les besoins dont les entreprises avaient besoin ici. Ce n'étaient pas des travailleurs de base, les gens n'avaient pas de problème particulier avec eux. Le 11 septembre a marqué une rupture. Les médias ont commencé à parler des musulmans en se concentrant sur ce qui se passait sur la scène internationale, notamment au Proche-Orient. Et c'est devenu un synonyme. Islam égale terrorisme. Depuis les années 50 et 60, les groupes de haine ne faisaient pas partie des voix les plus écoutées. Le Ku Klux Klan ou le parti nazi américain n'étaient pas perçus par la majorité des gens comme des voix légitimes et représentatives de la population américaine. Mais depuis un an, ils reviennent en force. On leur donne une place. À mon avis, ça prend ses racines en 2008, au moment de la crise économique, quand des millions de gens ont perdu leur maison, leur emploi et les économies de toute une vie. Ensuite, il y a eu l'élection du premier président afro-américain et ils ont mélangé tout ça. En se disant, ce pays part de travers. Tout le monde cherchait des solutions à tous ces problèmes, mais ça n'a pas disparu. Ces 8 dernières années, pendant la présidence d'Obama, ça s'est transformé en colère contre les minorités, les Mexicains, les Noirs, les musulmans. Et la campagne de Trump a surfé sur cette vague en disant « on va rendre sa grandeur à l'Amérique » en revenant à la situation qu'on connaissait avant que tout ça ne se produise. Il s'est mis à désigner précisément ces catégories en les rendant responsables de tous les problèmes. Je pense que la majorité des gens a réalisé que les Hispaniques étaient de plus en plus nombreux. Après le recensement de 2010, ils ont compris que le pays était en train de changer en termes démographiques et ils ont très peur du pays qui pourrait se dessiner dans le futur. Ils veulent que nous soyons un pays blanc et chrétien et ils ne veulent pas de gens de couleur ou qui ne soient pas chrétiens ici.
Thank you.
Paramore. C'est le quartier noir et défavorisé d'Orlando, connu pour sa pauvreté. La mairie finance des programmes de soutien à la population, comme ceux animés par deux femmes, Anna Kinchens et Judy Levine. Mais ici, tout est compliqué par le niveau de violence. Entre la police et les habitants, l'état de tension est extrême, criminalité vertigineuse, usage excessif de la force, situation qui dérape. À Paramore, comme partout aux États-Unis, Anna et Judy le rappellent, il existe une tradition. The talk, la discussion que tous les parents noirs ont un jour avec leurs enfants.
En tant que parent noir, c'est malheureux, mais vous devez avoir un jour cette conversation. On est dans une société pas forcément très gentille et il faut être prêt à tout ce qui peut se produire. Est-ce cette conversation? C'est surtout comment faut-il se comporter avec la police? Surveille ton langage corporel, fais attention à ce que tu dis, quels sont tes droits? Vous vivez dans la peur, car vous ne savez pas si ce jour-là, ce n'est pas le jour où vous allez vous faire arrêter par un officier de police ou croiser le chemin de quelqu'un qui ne sera pas bien disposé à votre égard à cause de la couleur de votre peau.
La grosse différence, c'est que moi, j'ai trois fils et ils sont tous les trois blancs, blonds et aux yeux bleus. Je n'ai jamais dû leur dire, si tu te fais arrêter pour quoi que ce soit, garde bien tes mains sur le volant et attends sans bouger qu'ils s'approchent de toi. Enlève ta casquette, mets tes mains sur le volant. Oui, monsieur, non, monsieur. Oui, madame, non, madame. Je n'imagine même pas avoir cette conversation avec mes fils, sauf pour leur dire, si tu étais noir, c'est une discussion que nous serions obligés d'avoir tous les deux.
Anna, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous dit ça? What do you feel when someone says something like that?
It's hard.
C'est dur, ça me fait du mal, parfois c'est démoralisant. Vous êtes là à essayer de faire en sorte d'aider une communauté à se renforcer. À l'extérieur, vous faites bonne figure, vous allez au boulot, vous devez encourager les gens. Mais honnêtement, moi, lorsqu'un jour j'ai été arrêtée, je tremblais littéralement. Je me disais, oh mon Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Vivre dans cette peur, ce n'est pas tranquillisant. Mais en fait, ce n'est pas neuf. Maintenant, c'est juste plus intense. Comment vous dire? C'est quelque chose dont vous savez que ça existe, mais là, c'est en première ligne et les gens ne cachent même plus leur haine. Ils la montrent comme ça, froidement. Avant, on ne le voyait pas, on en parlait à voix basse, vous saviez que ça existait. Maintenant, vous avez Internet, vous avez ces gens qui filment ces abus et qui ont les moyens de les montrer. Et ça les rend plus réels. Le plus dur, c'est que malgré Internet, malgré les réseaux sociaux, les gens font comme si ça n'arrivait pas, parce que ça ne les concerne pas. Donc, en tant que parent, vous avez les soucis normaux de tous les parents. Est-ce que les enfants sont en bonne santé? Est-ce qu'ils sont à l'heure pour prendre le bus? Bref, les trucs classiques de tous les parents. Mais en plus, vous avez ces choses, vous savez, ces choses en plus qui vous inquiètent. Tenez, par exemple, ma fille, parfois, elle est insolente. Du coup, qu'est-ce qui peut se passer si elle est arrêtée par un policier? Et qu'est-ce qui se passera si elle a un mouvement d'humeur? Si elle a peur, si on lui fait mal et qu'elle ne réagit pas de la bonne façon? Est-ce qu'elle va rentrer en tir à la maison? Oui, ça me trotte toujours dans la tête. Parce que vous devez vous conduire vraiment d'une certaine façon et si vous ne le faites pas, vous pouvez en mourir. And then that tiny turtle got a bubble in his throat. Bubble. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui à Paramore de ce que vous envoyez? How do people live?
Paramore is really a microcosm of Paramore est vraiment poverty. Un microcosme de la pauvreté. So the implications l'impact de tout ça sur les familles, families, and I look at it je vois ça à travers les enfants puisque c'est mon métier, c'est mon domaine. L'impact de vivre dans la pauvreté, je disais, est terrible. Ça veut dire, est-ce qu'on sera toujours dans le même appartement la semaine prochaine? Est-ce qu'on aura toujours de la nourriture ce week-end? Parce que là, on est vendredi, je ne reviens pas à l'école avant lundi. Est-ce qu'on aura quelque chose à manger d'ici là? Ça veut dire, si ma maman ou mon papa cumule deux ou trois boulots, qui va s'occuper de moi? Est-ce que je peux jouer sans danger dehors? Tout cela, ce sont des facteurs de stress et ça a un effet sur le cerveau d'un enfant. Le gros souci dans une communauté comme Paramore, c'est que tout ça, ça continue. Et ce n'est pas que le problème de Paramore, c'est aussi ça en dehors de Paramore. Quand le président Lyndon Johnson a déclaré la guerre à la pauvreté, c'était dans les années 63, 64 ou 65, je ne sais plus, je devrais m'en souvenir, on partait du principe que cette guerre contre la pauvreté, ce moment où on a mis en place les bons alimentaires et le Head Start, ce programme qui offre un repas gratuit dans les écoles publiques, on pensait que c'était ce dont notre pays avait besoin à ce moment-là. En fait, depuis ce temps, le taux de pauvreté est resté constant, il n'a pas diminué. Je pense que c'est un problème permanent sur lequel on discourt tous les quatre ans quand il y a des élections. Mais on s'en tient au mot, on ne fait rien.
On est à Eatonville. Eatonville, c'est un lieu historique pour les Noirs américains. C'est la première municipalité entièrement noire du pays. C'est là que nous a donné rendez-vous Coy Jones, une militante de la cause afro-américaine.
Bonjour, je m'appelle Coy Jones. You have to look at some of our...
Il faut bien voir que nos quartiers défavorisés, c'est une jungle. Une jungle, tu as du mal à en sortir. Quel que soit le chemin que tu prennes, il y a toujours quelque chose qui se dresse devant toi pour t'empêcher de réussir.
Diriez-vous que cette colère, elle est d'autant plus forte que les espoirs étaient grands au moment de l'élection de Barack Obama?
Vous savez quoi? Je vais pleurer. Les gens sont dégueulasses. Ce n'est pas la faute du président. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Il a été bloqué, tout comme nous. Nous, dans nos quartiers, on a des obstacles qui se mettent au milieu de notre chemin. Et lui, ça a été tout pareil à Washington. Et je pense, d'ailleurs, c'est bien pour ça que la politique, c'est tellement difficile à comprendre du point de vue des Noirs. C'est que les politiciens, on n'a pas confiance en eux. Et quand enfin on en trouve un en qui on croit, tout ce qu'on voit, c'est que Barack a promis des trucs
et
qu'il ne les a pas fait. Ce n'est pas la faute de Barack. Ce sont les législateurs, là, vos sénateurs, vos membres du Congrès, qui l'ont bloqué chaque fois qu'il voulait faire quelque chose. C'est dur.
Mais quelque part, vous arrivez à comprendre ces Blancs qui se sentent déclassés socialement à cause de la crise économique, ces Blancs qui se sentent dépassés désormais en nombre par les minorités depuis 2014. Vous comprenez d'où vient leur colère?
Oui, évidemment. Quand vous avez eu le contrôle de tout pendant 400 ans et que vous êtes en train de tout perdre, vous ne seriez pas contrarié? Les hommes blancs représentent 94% du Parti républicain. Ils ne peuvent pas arrêter ce mouvement. C'est comme ça. Le monde change, les minorités deviennent des majorités, et les majorités, les hommes blancs, deviennent des minorités. Ça, c'est dur à encaisser. Je ne suis pas blanche, mais si je l'étais, si je vivais en Amérique, si depuis 400 ans, c'était moi la blanche, et que c'était moi qui étais aux commandes tout ce temps, eh bien sûr, je serais en colère.
Mais qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens pour les rassurer ?
Honnêtement, je n'ai jamais eu ce genre de discussion avec une blanche. C'est-à-dire, quand on en parle, c'est entre noirs. Ok, je serai honnête. Les États-Unis d'Amérique, les premiers à venir ici en 1492, c'était des explorateurs blancs qui ont accosté ici et qui se sont dit « Ah, c'est un endroit super. Ils ont été aux manettes pendant si longtemps. Ils ont totalement spolié et écrasé les Native Americans, les Indiens d'Amérique. Ils nous ont fait venir d'ailleurs et nous ont fait construire ce pays. Je veux dire, c'est nous qui l'avons construit, ce pays. Ces infrastructures, tout ça, c'est les minorités qui l'ont construit, pas les Blancs. Et maintenant, vous voyez bien que la situation s'inverse. Ça ne serait pas très agréable à avoir comme conversation, mais ça ne serait pas très compliqué à expliquer. »
Sur South Orange Avenue, impossible de manquer le garage de Richard Fawcett. Au bord de la chaussée, des banderoles bleues et un immense panneau publicitaire annoncent la couleur. Ici, on vote Trump.
Hello?
Okay, you ready? And here she goes, Chuck.
Allez, on y va. La voilà, mon pote. Alors, on a une nouvelle sonde, un collecteur qui était tout sec, tout pourri, ça nous fait 34-51. On a un nouveau câble d'embrayage, heureusement qu'on est tombé dessus. Regarde-moi l'état de cette gaine de thermostat, là c'est $31.51. En tout donc, $455.84. Voilà, tu mets un petit graffiti là, encore une petite signature ici.
And you need the credit card.
Tu veux que je te rende ta carte? Voilà, et c'est bon.
And there you go, Sonny.
Merci, monsieur.
C'est toujours un plaisir de te voir, mon ami. Souviens-t'en. Et comme à chaque fois, je te le dis, je te remercie encore pour tout ce que tu as fait pour ce pays. Ça, j'apprécie vraiment plus que tout le reste. Lui, c'est vraiment un héros. Vous savez ce que j'en dis? Quand j'avais 18 ans, je me suis posé la question de m'engager. Je me suis dit, vous savez quoi? Soyons honnêtes. J'étais jeune. Oh, j'ai pas envie d'aller à la guerre s'il y en a une qui éclate. J'ai d'autres choses à faire.
C'est ce que vous avez fait, monsieur? Vous êtes un vétéran?
Oui, j'ai fait deux séjours au Vietnam. J'étais dans le génie. Je détruisais ce que les autres avaient construit.
Ouais, un pont que l'ennemi a construit, il les faisait péter.
Le premier séjour, ça s'est pas mal passé. Le second, c'était un petit peu plus dur.
Vous avez quel âge ?
74 ans.
Vous travaillez toujours ?
Oui, toujours. Je suis conducteur de camion.
Et la retraite ?
Jamais.
Vous avez peur pour l'avenir du pays ?
Oui, d'une certaine façon, oui.
C'est-à-dire ?
En fait, nos ancêtres sont venus dans ce pays, ils en ont fait ce qu'il est. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'on le garde tel quel.
Ouais, ça c'est bien dit.
Et il y a des choses qui doivent être faites. Quand ils ont arrêté les prières à l'école, par exemple, ça m'a dérangé. Si vous salissez le drapeau, il vaut mieux pas que je sois dans les parages, parce que ça, je ne laisserai pas faire. Le gouvernement, il ne fait rien. C'est lui le responsable de toute la situation actuelle. Les frontières, tiens. Elles sont ouvertes depuis des années. Maintenant, ils veulent les fermer parce qu'il y a trop d'immigration. Ah, il ferait mieux de se retirer et de laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Je crois qu'on a besoin d'un changement. Je pense que les politiciens à Washington ne devraient pas faire plus d'un mandat. 4 ans et hop, dehors. Ça ne doit pas être une carrière. Et pourtant, eux, ils font carrière.
Je m'appelle Richard Fawcett. Je suis le propriétaire de ce garage. Je fais ça depuis que je suis tout jeune. J'avais 22 ans, j'en ai 55 maintenant. Je suis un supporter de Trump. J'aime ce qu'il dit, j'aime le fait qu'il soit ce qu'on appelle un nationaliste, même si c'est un terme qui n'est pas très en vogue en ce moment, mais moi ça me plaît.
Mr. Trump, speech.
Le discours de M. Trump se focalise beaucoup sur l'immigration. C'est une menace pour les États-Unis?
Je ne sais pas si on doit appeler ça une menace. C'est sûrement un fardeau, c'est certain. Ça dépend de la façon dont ces gens s'intègrent. S'ils n'arrivent pas à s'intégrer, oui, c'est clairement ça, car ça casse la cohésion du pays.
Mais pourtant, l'Amérique, elle s'est construite avec le rêve américain, les flux migratoires, le melting pot.
Oui, c'est vrai. L'Amérique s'est construite avec l'immigration, mais si on veut être factuel, il s'agissait d'une immigration de type caucasienne et chrétienne. Ces caucasiens, ces blancs, ils avaient la même culture, la même façon de vivre. Ils avaient la même croyance religieuse, c'était plutôt des agriculteurs. Ils croyaient tous aux mêmes choses et ça rendait les choses plus faciles. Maintenant, vous avez des gens qui arrivent d'ailleurs avec des origines ethniques différentes, d'autres religions.
Et
ils ne s'intègrent pas, ils ne suivent pas les mêmes lois et ça, ça vient en conflit avec les libertés chrétiennes que nous aimons et qui nous sont si chères. Vous savez, je vais prendre l'exemple des femmes. Dans les sociétés chrétiennes, on respecte les femmes bien plus que dans n'importe quelle autre société sur la Terre entière. On ne tolérerait pas qu'on leur dise où elles doivent aller, comment elles doivent s'habiller, qui elles doivent épouser, si elles peuvent conduire. On ne le tolérerait pas. Après, s'ils ne cherchent pas à changer notre système juridique, je veux dire, je sais un peu comment ça se passe ailleurs, je pense que notre système est le meilleur au monde. Eh bien, ça irait. Je pense qu'il faut s'intégrer dans les règles. C'est irrespectueux de chercher à imposer vos propres croyances quand vous vous installez dans un autre pays, qui plus est quand c'est ce qui a permis à ce pays d'être un des meilleurs du monde.
Le slogan de M. Trump, c'est « rendre à l'Amérique sa grandeur ». Est-ce que l'Amérique, elle est toujours grande ?
L'Amérique a toujours été grande, elle l'est encore. Je suis sûr qu'il le pense aussi, aucun doute, mais aussi grande soit-elle, elle pourrait être encore meilleure et elle a perdu des choses qui faisaient sa grandeur d'autrefois.
Comme quoi ?
Eh bien, on avait une économie très dynamique. Quand vous étiez diplômé, vous étiez certain d'avoir un emploi. Les entreprises, elles vous payaient une bonne retraite, et ça, c'était une garantie de revenus. Maintenant, on vous refourgue des retraites par capitalisation. Je vais vous dire, autant jouer au dé, parce que la bourse, avec tout ce qui se passe maintenant, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Il y avait des choses surtout qui étaient des constantes. Vous aviez cette conviction que toujours les choses allaient continuer à s'améliorer. Et ça, c'est fini. On pensait que ce que nous allions laisser à nos enfants serait meilleur encore que ce que nous avions. Et ce sentiment-là, on l'a plus. Le futur n'a plus rien de riant. Et comment ? Avec des millions de gens qui dépendent des aides sociales, avec le taux de chômage, le logement, c'est pas simplement une impression, ça, ce sont des faits. La criminalité. Heureusement que Donald Trump en parle. C'est terrible en ville. Franchement, j'aime pas le dire comme ça, mais en tant que nation chrétienne, la première de nos responsabilités, c'est de protéger les enfants et les femmes aussi. C'est comme ça. Bonjour, monsieur.
Peur de l'autre, peur de l'avenir, peur d'une économie mondialisée qui a fait disparaître tous les repères. Des failles désormais béantes craquellent la société américaine. Le pays vit au rythme de sa télévision, des petites phrases, des shows gigantesques, des moindres sorties de ses candidats, un show hypnotisant où la réalité semble avoir dépassé la fiction. Judy Block est agent immobilier. La crise de 2008 l'a frappée de plein fouet, elle s'en est relevée, mais elle se demande aujourd'hui si son pays, lui, survivra à cette campagne.
Je m'appelle Judith, je suis un New Yorker, mais je vis à Orlando.
Je ne sais même pas comment dire en anglais tellement c'est terrifiant. Ça nous terrifie, c'est pas une blague. Je pense que Trump, c'est un produit de la télé-réalité. Ce n'est pas un politicien, donc il n'a pas un bilan sur lequel les gens peuvent se raccrocher pour dire qu'il a fait tel ou tel truc, contrairement à Clinton. Les gens, ils se disent, tiens, si je vote pour Trump, j'aurai une épouse mannequin, j'aurai un avion à moi, j'aurai un casino. Son discours de haine, ça a permis à tout le monde d'être raciste, insultant, dingue, parce que c'est ce qu'il est. C'est devenu banal, normal dans les conversations. Avec ces élections, mon pays me répugne. Et ça, c'est aussi la faute des médias. Ils lui ont donné tant d'importance, tant d'attention. Les gens ne font pas la différence entre une attention positive ou négative. Ils voient juste sa tête, en permanence. Ils voient son image, son nom, ça se grave, ça rentre dans leur subconscient. Et les gens qui ne font pas vraiment attention à ce qui s'est dit, ils se disent, ce type, il est partout, je vais voter pour lui. Arrêtez de le mettre à la télé, arrêtez de dire qu'il est ridicule parce que vous lui donnez du temps d'antenne. Il a des tonnes et des tonnes de temps d'antenne à l'œil. Grâce à ses outrances. Dans notre culture modelée par la télé-réalité, être outrancier, c'est bien. C'est tout ce mélange qui lui a permis de surgir. Je n'ai jamais vu un truc pareil dans ma vie. Et ça va devenir pire encore, même s'il ne gagne pas. Car il a ouvert une brèche. Il a rendu ça normal.
Cette élection, c'est un cauchemar. C'est rien à voir avec les autres. Pas juste pour les États-Unis. Mais pour le monde, pour le monde.
USA, la peur au fond des urnes. Un reportage de Claude Guibal et Nicolas Mathias, mixage Philippe Bredin, réalisation Anne Lioro, assistée de Zora Bensmaili et Stéphane Combe, à retrouver sur franceinter.fr.
Merci à vous, Philippe Bardonneau. C'était donc Interception. Si vous souhaitez approfondir le thème de l'émission et nourrir votre réflexion sur le sujet, eh bien sachez que vous disposez sur le site internet de l'émission de différents éléments et de différents liens, comme celui de TV5 Monde, avec un dossier multimédia, élection présidentielle américaine, comment ça marche. Il existe également une liste d'ouvrages qui est référencée comme l'Amérique défaite, portrait intime d'une nation en crise. C'est écrit par George Packer aux éditions Piranha et c'est traduit par Étienne Domenech.